Vous êtes sur RTL. Jusqu'à 10h sur RTL, nous voilà bien avec Flavie Flamand.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Quel plaisir de vous accompagner chaque samedi dans Nous voilà bien et de commencer le week-end ensemble et sur l'antenne d'RTL. De 9h15 à 10h, des infos conso, des conseils, des recettes et comme toujours, évidemment, et quoi qu'il arrive, de la bonne humeur au menu. Allez, sommaire. Ils prennent la poussière au fond des tiroirs de nos commodes, mais ont peut-être plus de valeur qu'on ne le pense. Alors, comment savoir si nos bijoux de famille sont des trésors? Grâce aux réponses expertes d'Armel Lévy, journaliste au service éco et conso d'RTL. Faire pousser des plantes aromatiques chez soi, est-ce une bonne idée? Tous les trucs et les astuces de Pierre Nesman, paysagiste et rédacteur en chef adjoint de Rustica Pratique. Et puis, c'est un aliment gourmand qui a la cote plus que jamais. Comment cuisiner l'avocat? Le chef Grégory Cohen nous dévoile ses bons conseils et ses recettes gourmandes.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
Bonjour Armel Lévy.
Bonjour.
Soyez la bienvenue, merci d'être avec nous en ce samedi matin. Vous êtes journaliste au service éco et conso d'RTL et je ne savais pas que vous étiez spécialiste des bijoux de famille.
Oui.
Voilà, au moins ce sera dit, la blague sera faite. Armel Lévy, est-ce qu'on peut détenir chez soi des bijoux précieux sans le savoir? C'est vrai, je le disais il y a un instant, on en a tous au fond des tiroirs ou dans certains coffrets que nous auraient laissés nos grands-parents ou arrière-grands-parents.
Mais oui, vous avez des bijoux chez vous, mais vous n'avez aucune idée de leur valeur. Ça arrive tous les jours, raconte Maître Jakobovic, commissaire priseur à Melun. Alors, pour éviter les cambriolages, les familles ont l'habitude de mélanger les bijoux fantaisie en toc avec les vrais bijoux. Et c'est comme ça que, par hasard, vous pouvez retrouver un solitaire, donc un gros diamant, au milieu de babioles qui n'ont pas de valeur. Et les experts voient aussi l'inverse. Vous aimez la bague que votre grand-mère portait tout le temps, ou son collier. Vous l'avez gardé toutes ces années, il a une vraie valeur sentimentale. Il s'est transmis de génération en génération. Mais quand vous le faites estimer, ce n'est pas de l'or, c'est du plaqué. Ou ce n'est pas un diamant, c'est une imitation. Donc dans la légende familiale, la bague de fiançailles et le collier de perles valaient cher. Mais en réalité, ce n'est pas ça.
On peut déterminer soi-même si le collier, les boucles d'oreilles ou le bracelet de notre grand-mère sont en or, en argent ou en acier. Il y a des poinçons, non?
Oui, alors rien ne vaut l'œil d'un expert, mais quand même déjà, pour vous donner une idée, si un aimant attire votre bijou, il est probablement en acier. L'or et l'argent n'ont pas de propriété magnétique.
Et comment est-ce qu'on peut faire la différence entre l'or et le plaqué or?
Alors le plaqué, c'est juste une couche d'or, donc ça vaut zéro si vous voulez le revendre chez un marchand d'or. En revanche, c'est de l'or si votre bijou arbore un poinçon, donc le standard en France pour l'or, c'est le 18 carats. Mais il y a plein de pays où la norme, c'est le 14 carats ou le 9 carats, ils n'ont pas la même valeur. Et dans certains pays comme l'Italie et au Moyen-Orient, il n'y a pas de poinçon sur l'or. Et ce n'est pas du 18 carats, il a moins de valeur. Mais c'est de l'or quand même. Donc le seul vrai indice, c'est du plaqué or. Si vous avez de l'usure sur la matière, s'il y a une différence de patine, là on voit que la gourmette n'est pas en or.
Et comment on peut déchiffrer un poinçon? Ça ressemble à quoi?
Alors c'est pas facile, il y en a des dizaines. Alors les plus connus quand même sont la tête d'aigle pour l'or et la tête de Minerve pour l'argent. Il existe plusieurs poinçons, ceux qui parlent de l'orfèvre, donc de l'auteur, celui qui a fait l'objet, et le poinçon qui indique la quantité d'or, le carat. Donc la tête d'aigle pour l'or 18 carats, la coquille pour l'or 14 carats et le trèfle pour l'or à 9 carats. Ça, c'est pour la France. Et si c'est une montre, le poinçon est encore différent. Mais Flavie, l'or 24 carats correspond à de l'or pur.
Mais c'est très rare ça, on en voit peu, non?
Oui, parce que l'or, c'est un métal mou, donc on est obligé de mettre un alliage. Le 22 carats, c'est 90% d'or. Le 18 carats, le plus connu en France, contient 75% d'or. Le 14 carats, c'est 58,5% d'or. Et le 9 carats ne contient que très peu d'or, 37,5% d'or. Et celui qui n'a vraiment aucune valeur, c'est le plaqué or, puisque c'est juste une couche d'or, il n'a pas de poinçon.
Le prix actuel de l'or, parce que quand je vous écoute, je me dis qu'évidemment la valeur change, ça donne quoi?
Alors c'est vraiment l'étalon typique de la valeur refuge. Quand on achète de l'or, on retire son argent du système monétaire classique, parce qu'on n'a pas confiance au système économique. Autant dire que le cours de l'or s'est envolé ces derniers temps. En ce moment, il est bien supérieur à sa valeur d'il y a 3 ans, même s'il a chuté de 10% début mars. Il vaut sur les marchés 46 euros le gramme et les marchands vous rachètent vos bijoux en or pour les fondre autour de 25 à 30 euros le gramme.
Mais alors justement, qu'est-ce qui détermine la valeur d'un bijou que je peux avoir à la maison?
Eh bien, la valeur du bijou est estimée par rapport à la valeur du métal, donc son poids, la qualité des pierres et le travail réalisé par l'orfèvre pour créer le bijou. Mais plus le bijou est exceptionnel par son style, sa signature, son époque, plus sa valeur va dépasser la simple valeur du métal et des pierres.
Oui, c'est ça.
Et quand la petite histoire rejoint la grande histoire, le bijou peut dépasser dépasser sa simple valeur vénale. Un exemple, le jour où Liz Taylor a vendu ses bijoux, c'était déjà une collection exceptionnelle parce qu'elle avait des bijoux de très grande valeur, mais c'était en plus ceux de Liz Taylor. La cote s'est envolée, la valeur a atteint des sommets.
Ah bah on n'est pas tous Liz Taylor non plus.
Non plus,
c'est une évidence. On parlait de la valeur justement d'un bijou.
Non mais Flavie Flamand quand même, vous êtes Flavie Flamand quand même.
Mais je n'ai que du toc. Alors peut-être que je peux donner un peu de valeur au toc, on ne sait jamais. Dites-moi Armelle Lévy, la valeur d'une pierre précieuse, moi je suis incapable de la connaître, on fait comment?
Alors la valeur des diamants, émeraudes, saphirs ou rubis varie selon quatre critères appelés les 4 C en anglais. Le carat, ouais. C'est son poids. Cut, c'est la taille ou la forme de la pierre. La couleur, un diamant jaune vaut plus par exemple qu'une pierre incolore. Et enfin, clarity, la pureté. C'est ainsi que les prix fluctuent de 1500 à plus de 25 000 euros pour un diamant d'un carat.
C'est passionnant. Franchement, je n'ai jamais trouvé les bijoux de famille aussi passionnants que ce matin parce qu'on apprend plein de choses grâce à vous.
Toutes ces coutures.
On va vous retrouver dans un instant parce que, évidemment, on est tous en train de se dire « Oh là là, mais où est-ce que j'ai mis telle bague ou tel collier de ma grand-mère ou telle montre de mon grand-père ?» On est tous en train de se poser la question « Comment faire expertiser nos bijoux et vers qui se tourner ?» Ce sera dans un instant avec vous sur l'antenne d'RTL. À tout de suite, Armelle.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Bon, c'est vrai que ces derniers jours, il a fait beau, on a envie de faire la cuisine. Mais justement, dans un instant, on parlera non seulement des recettes aux avocats avec le chef Grégory Cohen, mais également des plantes aromatiques avec Pierre Nesman. Mais pour l'heure, c'est avec Armelle Lévy qu'on s'intéresse, et oui, à nos bijoux de famille. Famille qui peuvent être de très grande valeur ou qui peuvent n'en avoir qu'une, c'est la valeur sentimentale. Mais justement, l'idée, c'est de les faire expertiser. On apprend plein de choses grâce à vous, Armelle Lévy, ce matin. Vers qui nous tourner pour savoir ce que valent nos bijoux?
Alors, si vous voulez connaître le prix de valeur du marché, mieux vaut aller voir un commissaire priseur. Si vous voulez connaître la valeur à neuf du bijou, là, il faut aller voir un bijoutier. Et si c'est pour connaître la valeur de l'or ou de l'argent, là, il faut aller voir un marchand de métaux précieux.
Mais est-ce que la démarche, justement, de l'expertise me coûte de l'argent? Est-ce que je peux demander
non.
des devis?
Alors, non. Quand vous allez voir un bijoutier, un commissaire priseur ou un acheteur d'or pour leur vendre vos bijoux, l'estimation orale est gratuite et confidentielle. En revanche, si c'est pour les faire expertiser, pour qu'ils vous remettent un certificat, une preuve d'authenticité pour l'assurance par exemple, oui. Là c'est payant, d'une centaine d'euros à plusieurs centaines d'euros par bijou. La loi contraint les professionnels à afficher leurs tarifs, donc n'hésitez pas à faire jouer la concurrence.
Vous parliez d'assurance, justement, si je découvre tout à coup que j'ai un ou plusieurs, allez, on va rêver de mes bijoux qui sont des trésors, est-ce que je me dois de les faire assurer?
Je vous le conseille vivement parce que c'est la première chose qui peut disparaître lors d'un cambriolage. Oui. Aujourd'hui, on ne va pas voler la commode, on va voler l'ordinateur et les bijoux faciles à emporter. Mais attention, l'assureur ne va pas vous rembourser à la valeur à neuf du bijou. Même avec la preuve d'achat, il va vous rembourser au prix du marché français de l'occasion dans une salle des ventes. Donc ce sera forcément un peu moins cher avec la vétusté.
Et si je veux les vendre, mes bijoux, je fais comment du coup ?
Alors, pour vendre vos bijoux, il y a d'abord le bijoutier. C'est intéressant surtout si votre bijou est signé. Si c'est une grande marque de la place Vendôme par exemple, il va regarder la quantité de métaux précieux présents dans la pièce, mais surtout le style, la rareté, le niveau d'usure et le nom du joaillier. Ouais. Si ce sont des bijoux vraiment anciens, n'hésitez pas à avoir un commissaire priseur. Lui, il connaît l'histoire de l'art et la valeur des bijoux vendus précédemment lors des ventes aux enchères. Il a intérêt à mieux valoriser vos trésors, puisque lors de la vente, ils perçoivent une commission de 10 à 15% sur le prix. Et sinon, si le collier n'est pas signé, il y a des marchands d'or et de métaux précieux. Ils vont l'envoyer chez le fondeur au cours de l'or pour les transformer en petits lingots pour les revendre. De toute façon, le conseil avant de vendre un bijou en or ou à un bijoutier ou à un commissaire priseur, c'est de le comparer avec le prix de l'or au poids chez un marchand de métaux précieux.
Comment je peux me prémunir des arnaques? Parce que même si on apprend plein de choses grâce à vous, Armelle, on n'est pas des professionnels et on est en face de nous, des gens qui détiennent cette science-là. Comment on fait?
La technique d'approche des arnaques, c'est de vous proposer des prix très attractifs, même trop attractifs. Et surtout sur Internet. Donc vous envoyez l'or et vous n'allez rien recevoir en échange. Les services de la répression des fraudes alertent aussi sur les démarcheurs qui frappent à votre porte ou qui tractent pour vous donner rendez-vous dans des villages. La vente de bijoux et de métaux précieux, c'est très réglementé en France. Choisissez toujours quelqu'un qui a pignon sur rue ou un site rattaché à une boutique. Doit figurer sur le site le nom de la société, l'adresse postale, l'adresse électronique, les coordonnées téléphoniques, le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés, avec le prix d'achat du métal, le mode de calcul du prix et les modalités d'achat. Vous devez également disposer des coordonnées de la société vous permettant de prendre contact avec son service client. Les acheteurs et les vendeurs d'or les plus réputés sont installés dans le quartier de la Bourse à Paris depuis des décennies. Ils sont très nombreux et se font concurrence entre eux, ce qui est plutôt bon pour le consommateur. La plupart disposent de sites internet. Ils vous envoient un kit. Vous mettez votre or dans l'enveloppe, en valeur déclarée par la Poste, avec présentation de la pièce d'identité. Les marchands vérifient la pureté de l'or et vous envoient l'argent, mais jamais en liquide. Ça, c'est interdit par la loi. Pour lutter contre le recel d'objets volés, le professionnel est obligé de consigner dans un registre les objets qu'il achète, leur description ainsi que l'identité du vendeur, et vous signez un contrat avec lui. Mais vous avez un droit de rétractation de 48 heures après avoir déposé votre bijou. Vous avez donc le droit de changer d'avis. D'accord. Et là, si le marchand ne peut pas vous le rendre, il est déjà parti à la fonte, il est tenu légalement de vous rembourser le double du prix auquel il vous l'a acheté.
Ah, ne pas oublier cette information. Et j'y pense quand je vous écoute, là, on est imposé sur la revente de nos bijoux ?
Non, la plupart du temps non, parce que vous n'êtes pas imposé si vous vendez votre bijou moins de 5000 euros. Et c'est souvent le cas. Vous n'avez aucune déclaration à faire. Au-delà, alors là, vous vendez un gros collier en or, vous avez deux modes d'imposition. Vous payez 6,5% de taxes pour un bijou et 11% de taxes si vous vendez une pièce en or. Ou sinon, vous pouvez opter pour le régime des plus-values. Si vous vendez votre bijou plus cher que son prix d'achat, vous payez 36,2% de taxes sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. D'accord. Mais vous êtes exonéré si vous pouvez prouver sur facture que vous détenez ce bijou depuis plus de 22 ans. Et là, c'est quand même pas facile de prouver ça.
Évidemment, comme bien souvent. Merci beaucoup Armelle Lévy. On a appris plein de choses aujourd'hui sur ces fameux bijoux de famille. C'était super intéressant parce qu'on oublie qu'on en a, on oublie l'histoire des poinçons et bien évidemment ça peut être une source aujourd'hui peut-être de revenus supplémentaires. Merci Armelle Lévy pour toutes ces infos. Passez une très bonne fin
Merci
de journée.
Merci, vous aussi.
Et à bientôt.
À
sur
bientôt.
Cette antenne.
J'aime le basilic.
Mon cher Pierre Messmann.
Bonjour Flavie, bonjour à tous.
Soyez le bienvenu, merci d'être avec nous en ce samedi matin. Vous avez des bijoux de famille, vous ? On a appris plein de choses ce matin grâce à Armelle Lévy. Moi, j'avais oublié tout ça, donc c'était passionnant, n'est-ce pas ?
Bon. On va pouvoir réouvrir nos petites boîtes à trésors et regarder ce qu'on a dedans.
Exactement. Et j'allais vous demander justement si la petite plante aromatique qui va bien, ça fait partie des trésors de la cuisine du printemps et de l'été.
Ah oui, effectivement, oui. Parce que les plantes aromatiques, c'est des plantes un peu particulières. Elles vont dégager des parfums, des arômes, et c'est bien pour ça qu'on les appelle des plantes aromatiques. Et très souvent, on les utilise en cuisine, ces plantes condimentaires que l'on va utiliser pour assaisonner des mets. Mais il y en a aussi certaines qui ont des qualités médicinales. Et là, elles vont plutôt être utilisées pour soigner ou apaiser.
C'est vrai que Pierre Messmann, vous êtes rédacteur en chef de l'émission Mission Vigitale, diffusée sur M6. Vous êtes également rédacteur en chef adjoint de Rustica Pratique et paysagiste. Donc, vous les connaissez, ces plantes aromatiques. Quelles sont les plus connues ? Parce que moi, je pense à la ciboulette, au basilic.
Alors, pour faire simple, on va les regrouper en deux catégories. Vous savez, quand on fait les courses au marché, il y a deux termes qui reviennent assez souvent et qui définissent justement les espèces qui sont les plus connues et les plus utilisées. Le fameux bouquet garni. Le bouquet garni, il regroupe effectivement le thym, le laurier sauce, le romarin, la sauge, la sarriette. Alors, ce sont des plantes qui ont besoin d'être, ou des feuilles, des rameaux, qui ont besoin d'être cuits pour être utilisées. On va les associer à des sauces ou à des plats. Et puis, vous avez aussi les fines herbes, les fameuses fines herbes. Vous savez, ce sont la ciboulette, le cerfeuil, le basilic, le persil, l'aneth, l'estragon, la coriandre. Alors ça, ce sont des plantes qui vont s'utiliser fraîches. On va les ciseler très finement et puis on va les déposer soit sur une salade ou éventuellement et même un plat chaud.
Et c'est absolument divin. On va se retrouver dans un instant, Pierre Messmann, parce que vous allez nous expliquer justement si on peut tous en faire pousser chez soi. Je vais vous poser plein de questions parce qu'on s'interroge tous justement comment conserver et comment faire pousser nos plantes aromatiques. J'ai acheté de la menthe dernièrement. Est-ce que je l'ai trop arrosée ? Est-ce que je l'ai mal exposée ? Toujours est-il qu'elle a très peu duré. Vous allez m'expliquer la bêtise que j'ai faite. A tout de suite sur RTL.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand. Jusqu'à 10h sur RTL.
Flavie Flamand, nous voilà bien.
Vous savez qu'on peut faire plein de choses avec un avocat. Je parle évidemment du légume. Hein. On en parlera dans un instant avec Grégory Cohen qui nous livrera toutes ses recettes. Mais pour l'heure, on parle des plantes aromatiques avec Pierre Messmann.
Moi, je m'appelle Ciboulette. C'est un nom qui plaît aux garçons.
L'opérette de Ciboulette sur RTL. Merci d'être avec nous, Pierre Messmann. Moi, je trouve charmant d'offrir à une femme ou à un homme d'ailleurs un bouquet de plantes aromatiques.
Pourquoi pas, effectivement. Il y en a beaucoup. Et puis, offrez-les en pot, parce que l'avantage des plantes aromatiques, c'est qu'on peut les acheter en pot, on peut les planter, les cultiver et ainsi cueillir régulièrement pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, des jeunes pousses pour aromatiser nos plats et nos repas.
Très bonne idée. Mais moi, j'ai beaucoup, beaucoup de questions à vous poser, Pierre Nesman, justement. Parce que vous me dites, offrez-les en pot, je suis d'accord avec vous, mais je trouve que ça n'est pas simple d'avoir des plantes aromatiques chez soi. Et je pense que nos auditeurs sont d'accord avec moi. Comment est-ce qu'on les conserve et comment est-ce qu'on les fait pousser?
Tout d'abord, il faut distinguer deux types de plantes aromatiques. Vous avez les plantes aromatiques vivaces, arbustives, vous savez, le laurier sauce, le thym, le romarin. Ce sont des plantes qui ont besoin de pousser à l'extérieur. Alors, quand on a un jardin, c'est parfait, on peut les mettre dans son jardin. Quand on a un balcon, une terrasse, on va les cultiver en pot. En revanche, quand on n'a pas la possibilité d'avoir de balcon ou de terrasse, c'est un peu plus compliqué. Il faut utiliser des rebords de fenêtres. Ou éventuellement, il y a des petites solutions actuellement qui sont les plantes qu'on va pouvoir cultiver à l'intérieur, dans des pots avec un éclairage artificiel.
Juste une chose, tout ce qui est thym, tout ce qui est romarin, on est d'accord que c'est rustique, ça ne nécessite pas véritablement d'entretien.
Ce sont des plantes effectivement rustiques, et quand on entend rustique, ça veut dire qu'elles résistent au froid. Donc vous les plantez dans votre jardin, elles résistent au froid, elles résistent même assez bien au sec, et donc elles vont pouvoir vivre pendant plusieurs années. Après, vous avez d'autres plantes qui sont disponibles maintenant chez les fleuristes ou dans les jardineries. Ce sont des plantes un peu plus délicates, plus fines. C'est le basilic, la coriandre, le cerfeuil, le persil, la ciboulette. Et la différence, c'est qu'elles ont un feuillage beaucoup plus fin, beaucoup plus délicat, et très souvent, on les plante au printemps, on les cultive, on les récolte pendant toute la belle saison, et malheureusement, à la fin de l'été, à l'automne, certaines vont dépérir, d'autres finalement vont ne pas passer l'hiver, il faudra les racheter l'année d'après.
Justement, c'est à celles-là que je voudrais qu'on s'intéresse aujourd'hui, parce que ce sont celles qui posent le plus de questions. Déjà, est-ce qu'on peut les faire pousser?
Alors oui, c'est très facile à faire pousser. Quand vous achetez ces petits plants, vous allez les planter au jardin ou dans un pot. Ça marche très très bien dans une jardinière, dans un pot, sur un balcon, un rebord de fenêtre. Vous utilisez un bon terreau mélangé avec un peu de compost. Vous les placez en situation ensoleillée, car c'est le soleil, la lumière qui va intensifier les arômes.
Alors ça, c'est pour les faire pousser. Quand on achète des plantes aromatiques, moi ce que j'appelle les plantes aromatiques fraîches, c'est-à-dire basilic, persil, ciboulette en pot, comment je les conserve?
Vous allez les conserver, si vous ne les rempotez pas, vous les gardez dans un pot, vous les placez, alors l'idéal c'est à l'extérieur, mais si vous n'avez pas de rebord de fenêtre, pas le balcon et de terrasse, ce sont des plantes comme le persil, comme la ciboulette, qui peuvent s'accommoder de quelques semaines à l'intérieur. Donc devant une fenêtre, devant une baie vitrée, avec suffisamment de lumière, vous mettez une petite soucoupe pour pouvoir les arroser régulièrement, mais il ne faut pas trop les arroser. Il faut qu'entre deux arrosages, le terreau se soit un petit peu desséché en surface, pour que les racines puisse respirer, que le terreau puisse s'assainir. Donc évitez d'arroser trop souvent et puis vos plantes vont commencer à pousser. Mais évidemment, à l'intérieur, le contexte est un petit peu particulier, un peu artificiel. Donc il faut savoir qu'au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, vous serez peut-être obligé, eh bien, malheureusement, de les jeter parce qu'elles vont dépérir et d'en racheter des nouvelles.
Ce que j'ai entendu, c'est qu'on les arrose, pardonnez-moi de le dire ainsi, mais par le cul. C'est-à-dire on remplit la coupelle d'eau et ça remonte dans le pot.
Alors, on peut remplir la coupelle d'eau, effectivement, pour que par capillarité, l'eau remonte au niveau des racines. Mais si vous avez effectivement une situation très favorable, très ensoleillée, très chaude, vous allez peut-être être obligé d'arroser sur le pot. Donc dans ce cas-là, vous arrosez directement la terre au pied de la plante et vous attendez que le substrat s'imprègne d'eau, que la soucoupe se remplisse éventuellement. Et puis vous attendez surtout entre deux arrosages. Attendez bien que le terreau soit sec, un peu en surface, avant de faire un nouvel arrosage.
Quand vous dites qu'on peut les rempoter, est-ce que c'est l'idéal quand même de pouvoir les mettre, je ne sais pas, dans une jardinière, parce qu'elles vont pouvoir s'épanouir plus que dans le pot dans lequel on les a achetées?
Oui, effectivement, les pots dans lesquels on les achète sont des pots de petite taille. Alors ça va pour dépanner pendant quelques jours, quelques semaines éventuellement. Donc effectivement, le rempotage est plutôt conseillé quand on a la possibilité de le faire.
À propos justement de racines, est-ce qu'on peut associer, marier dans une même jardinière différentes plantes aromatiques? Est-ce que je peux marier le basilic avec la ciboulette sans problème?
On peut le faire. Il y a un élément auquel il faut faire très attention. Toutes les plantes qui sont plutôt des plantes méditerranéennes, le thym, le romarin, la sauge, toutes ces plantes-là demandent des sols plutôt drainés et des arrosages beaucoup plus éloignés. Il faut que le terreau vraiment puisse s'assainir entre deux arrosages. Donc on va les regrouper entre elles. Et puis on va regrouper aussi, comme vous le dites, le basilic, le persil, toutes ces plantes qui demandent un sol beaucoup plus frais et un arrosage beaucoup plus régulier. Vous avez peut-être remarqué, votre basilic, quand vous ne l'arrosez pas, très vite, ils piquent du nez, les feuilles retombent, ils se dessèchent. Ça veut dire que toutes ces plantes, comme le basilic, le persil, le cerfeuil, la coriandre, on va les regrouper entre elles parce qu'elles ont les mêmes besoins au niveau des arrosages et de la fréquence des arrosages. Et puis les plantes un peu plus méditerranéennes, on va les regrouper dans des pots différents de manière à leur donner un environnement qui leur convienne.
Pierre Nesman, quand on se sert de ces plantes aromatiques, on va chercher directement sur la plante, on coupe directement sur la plante. Quelles sont les feuilles que je prends sur mon basilic? Quelles sont les feuilles que je prends sur l'amande, celle d'en haut, celle d'en bas? Et ma ciboulette, par exemple, je lui coupe les cheveux?
Effectivement, alors on va reparler de la ciboulette. La ciboulette, il faut couper à la base des tiges, de manière à ce qu'elle repousse depuis la base. Donc vous prenez un petit bouquet de quelques tiges, vous le coupez à la base avec une paire de ciseaux ou un couteau, et puis vous l'utilisez, et puis la fois d'après, vous allez couper quelques tiges juste à côté. Quand vous avez du basilic et de la menthe, on va utiliser les plus belles feuilles, les plus grandes feuilles, et celles-ci, elles sont très souvent situées à la base de la plante. On va laisser pousser la plante en hauteur, pouvoir justement bénéficier de plus de feuillage, mais on va couper et prélever les feuilles les plus âgées, qui sont bien grandes, bien vertes, et c'est surtout celles qui vont être les plus aromatiques.
Alors que moi, je prends toujours en haut, c'est pour ça.
Alors en haut, vous pouvez le faire. Ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, c'est les jeunes pousses, c'est ce qui va renouveler la plante. Ce n'est pas vraiment faux dans la mesure où on va procéder à une sorte de taille de petit pincement. Donc, quand vous coupez l'extrémité d'une tige, eh bien, cette tige, elle va se diviser et produire d'autres pousses. Mais c'est vrai qu'elle va mettre plus de temps à produire ces pousses que si vous préleviez des feuilles au cœur de la plante.
On a appris plein de choses avec vous, Pierre Nesman. En tout cas, à titre personnel, maintenant, je sais. Et j'ai l'explication des crimes annuels de plantes aromatiques à la maison. Je vous remercie en tout cas pour toutes ces infos,
merci.
Pierre. Tiens, votre nouveau livre, on va le conseiller à nos auditeurs. « Mon jardin s'adapte au changement climatique ». Ben oui, c'est d'actualité évidemment cette question. C'est aux éditions de La Chaux et Niestlé. Maintenant que grâce à vous, on a les herbes aromatiques, Pierre Nesman, eh bien, on va aller du côté de la cuisine retrouver le chef Grégory Cohen qui va nous apprendre à cuisiner l'avocat. À tout de suite.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Il est bientôt 10h, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'heure de la recette avec Grégory Cohen, on parle de l'avocat.
C'est si bon. So I say to you.
Vous dansez, Grégory Cohen?
Ah mais avec vous Flavie, quand vous voulez évidemment, puis j'adore danser.
Merci d'être avec nous, vous êtes chef. Donc avant de danser, vous allez nous livrer les recettes aujourd'hui et vous allez nous informer sur l'avocat. D'ailleurs, figurez-vous qu'il y a un instant, j'ai parlé de l'avocat avec Armel Lévy en lui parlant d'un légume. Mais je me suis posé la question après, peut-être me suis-je planté, c'est un fruit ou un légume l'avocat?
Alors en fait, c'est un peu les deux. Au sens botanique, dans la mesure où il a une graine, c'est un fruit issu de l'avocatier. Mais au sens pratique, on le consomme comme un légume et on le trouvera d'ailleurs sur les étals parmi les autres légumes, les carottes, les artichauts, les salades ou les tomates. Ah ben non, les tomates, c'est aussi un fruit. Enfin bref, au sens botanique. Donc on parlera d'un fruit-légume pour mettre tout le monde d'accord, si vous voulez, Flavie.
Donc on peut dire un fruit-gume?
Un fruit-gume, allez, c'est sympa ça.
Allez, va pour l'avocat qui est un fruit-gume qui n'est pas cultivé sur notre territoire, je pense, parce qu'à chaque fois que j'en achète, je vois plutôt qu'il vient d'Amérique du Sud.
Oui, c'est ça, en fait, il est originaire du Mexique et c'est donc au Mexique qu'il est le plus produit. C'est le premier exportateur mondial d'avocats. Après, il y a d'autres pays qui suivent, le Pérou, Israël ou alors en Europe, l'Espagne.
Et son importation, elle est vraiment décriée, hein, écologiquement, on dit qu'elle est néfaste. Moi, je suis toujours dans la culpa d'acheter un avocat et pourtant, j'ai l'impression que c'est un aliment qui fait vraiment partie aujourd'hui de l'alimentation dite healthy.
Ben oui, c'est ça, il y a une espèce de dualité. D'un côté, c'est très bon pour nous et pour notre corps et donc on l'utilise et on le mange, on le surconsomme presque même. Et d'un autre côté, il a un impact environnemental qui est assez fort. Il y a plusieurs causes à ça. D'une part, la culture de l'avocat. Il assèche les territoires. Un avocat, ça a besoin de 70 litres d'eau. Un avocat. Alors qu'une tomate, par exemple, c'est 5 litres. Et au Mexique, il y a peu d'eau. Alors il faut creuser des puits, détourner des cours d'eau. Du coup, l'impact écologique, elle est très sévère. Ensuite, il y a l'impact carbone, c'est-à-dire que on va essayer de privilégier des endroits où on aura moins de voyages, moins de temps de transport, pour que on ait un impact un petit peu moins fort. Du coup, on peut se replier sur des production plus proche, comme l'Espagne, Israël, ou alors en moindre quantité, la Corse.
Parce qu'il y en a en Corse.
Ouais, il y en a un peu. Il y en a un peu plus en France, dans les DOM et dans les TOM, en Martinique, en Guyane, à La Réunion ou à Mayotte. Mais c'est très 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 loin parce que bout à bout, on réussit pas à avoir la consommation française. La consommation française, c'est 122 000 tonnes d'avocats. Donc on devra toujours, malgré tout, avoir recours aux importations lointaines.
Il en existe de nombreuses variétés, j'ai l'impression.
Alors il existe plein de variétés, vraiment. Mais en réalité, en France, on en consomme principalement une. C'est la Hasse, qui est un avocat qui a une peau fine, légèrement brunasse, et qui est super bon et très facile à conserver et à transporter surtout.
Et comment on le choisit, un bon avocat? Parce que c'est pareil, alors l'avocat, ça se fait palper du matin au soir quand même. Hein.
Bah c'est ça. En réalité, on y est, il faut le tâter, il faut le prendre en main. Et du coup, s'il est un peu mou, il est mûr pour être dégusté. Et s'il est vraiment dur et ferme, il faudra attendre un petit moment.
Est-ce qu'on peut quand même parler à tous les tâteurs d'avocats qui nous écoutent que quand on va tâter un avocat sur un étal, on n'enfonce pas ses doigts dans la chair parce que c'est la meilleure façon d'abîmer le fruit-gume?
Il y a une façon de tâter, évidemment.
Avec délicatesse, évidemment. Quoi.
Avec délicatesse. Sinon, ça peut faire mal.
Non, mais je dis ça parce que parfois, il nous arrive d'acheter des avocats, de rentrer, de l'ouvrir et de voir qu'il a été martyrisé, quoi. Donc, c'est quand même compliqué. Donc, il faut qu'il soit souple, je dirais, sous la main, sous le doigt, mais en même temps, pas complètement ramollo, parce que sinon, ça veut dire qu'il est trop mûr. Comment est-ce que je le conserve, frigo ou pas?
Bah, alors, on peut le conserver au frigo. Évidemment, ça dépend de son stade de maturation, en fait. S'il est mûr et qu'on le souhaite le conserver un peu plus longtemps, on le met au frigo, ça va ralentir son vieillissement. Et à l'inverse, à température ambiante, il va mûrir plus vite. On estime que c'est à peu près une semaine à température ambiante quand il est très très vert. Et puis 2 à 3 semaines au frigo.
Comment je sais s'il est prêt à être dégusté? Parce qu'effectivement, moi, il m'arrive d'en acheter des très durs qui mûrissent en l'espace d'une semaine, mais j'hésite toujours sur le bon moment pour le déguster.
Alors là, il faut le couper, il faut vraiment le voir. Il faut que sa chair soit tendre et sa couleur doit être verte. J'ai un petit truc, tiens, Flavie, si on veut le faire mûrir plus rapidement, par exemple, on a acheté nos avocats, on a envie de les manger dans 2 jours, ils sont durs, 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 ben, on va en fait, pour accélérer le processus, on va les mettre dans un sac et on va les mettre avec une banane ou avec une pomme, parce que ces deux fruits sécrètent naturellement une hormone végétale qui s'appelle l'éthylène, et en fait, cette hormone, elle va déclencher une maturation, et donc l'avocat va mûrir plus vite.
Ça, c'est très bon à savoir. Et d'ailleurs, ça veut dire qu'il faut faire attention parfois aux associations dans une coupelle de fruits et de légumes, parce qu'on peut, quelque part, provoquer une accélération du processus de maturation de certains fruits ou légumes.
Exactement. La banane est un déclencheur et va en fait faire mûrir tous les autres fruits ou légumes beaucoup plus vite.
Une fois coupé, comment est-ce que je peux éviter qu'il s'oxyde? En mettant du citron?
Bah exactement, on met du citron dessus, ça marche aussi pour les pommes, les poires, ça évite l'oxydation. Alors on peut aussi mettre un petit peu d'huile dessus, ça va faire une pellicule de protection et du coup on va conserver la belle couleur de notre avocat. À noter aussi quelque chose de super important, l'avocat c'est un fruit qui est très gras. C'est devenu la coqueluche du bien-être, la coqueluche d'une alimentation saine, malgré le fait qu'il soit très gras, parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle les acides gras insaturés, et ça permet de réguler le mauvais cholestérol, et ça préserve notre système cardiovasculaire. Donc c'est très très bon, il est aussi riche en potassium, ça veut dire qu'il diminue l'hypertension artérielle, et puis il est riche en magnésium, et alors ça va diminuer aussi les risques d'infarctus. C'est un super fruit, il faut pas s'en priver, mais c'est vrai qu'il faut faire attention à l'origine de l'avocat.
Il se mange toujours cru?
Alors il se mange essentiellement cru, mais on peut aussi le cuisiner en le faisant revenir à la poêle, par exemple, à feu vif, un court moment, et en le déglaçant au vinaigre balsamique. Du coup, on aura un avocat qui sera caramélisé légèrement sur l'extérieur et hyper fondant à l'intérieur.
Vous savez qu'un jour, on m'a proposé en fait une crème d'avocat au chocolat en dessert. J'ai trouvé ça dingue.
Les desserts, on peut faire vraiment ce qu'on veut en crème d'avocat, en pointe, avec une tarte au citron, avec des pointes d'avocat dessus, en sorbet. C'est assez surprenant parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de le consommer comme ça. Il faut faire attention parce que parfois, comme il est assez gras, il peut avoir tendance à nous rajouter une petite pellicule dans la bouche qui n'est pas super agréable, mais c'est quand même assez dingue. Ouais.
Dites-moi là, le guacamole de ce soir à l'apéro, on le fait comment?
Alors, le guacamole de ce soir à l'apéro, il nous faudra pour le réaliser 3 avocats mûrs, 1 demi-oignon rouge, 6 tomates cerises, 1 citron vert non traité, 1 pincée de sel, 1 pincée de piment d'Espelette ou plus, là ça dépend vraiment si on aime épicé, 1 cuillère à café de cumin, 1 cuillère à café de paprika fumée, 2 branches de coriandre, 1 cuillère à soupe d'huile d'olive. Et puis là, on va créer dans un premier temps le mélange guacamole, c'est-à-dire le mélange d'épices, en versant dans un bol le cumin, le piment, le sel et le paprika. Puis on va découper en petits cubes les tomates ainsi que l'oignon, auxquels on va ajouter la coriandre ciselée finement. Et puis dans un bol, on va écraser la chair des avocats à la fourchette, presser le jus de citron vert dessus, ce qui permettra donc de conserver la belle couleur verte de nos avocats et apportera un peu d'acidité. Et puis vient le temps de l'assemblage, c'est super simple, on mélange en fait toutes les préparations, on ajoute un peu d'huile d'olive pour obtenir la consistance souhaitée. Et hop, caramba, que calor, mamma mia! De quoi faire des apéros. Ouais, je suis très espagnol en fait. Hein.
Et on peut le dire quand même, c'est tellement génial de faire soi-même son guacamole plutôt que d'aller l'acheter avec plein d'additifs. Voilà, faites votre guacamole maison, ça vous coûtera moins cher et ce sera meilleur. On est bien d'accord?
Et ce sera 1000 fois meilleur, on est vraiment bien d'accord.
Merci beaucoup, caramba! Merci, Grégory Cohen! Muchas gracias!
Gracias, Flavie Flamand!
Merci d'avoir été avec nous en ce samedi matin. Je rappelle votre livre, Les 60 classiques de la pâtisserie au Nutella aux éditions Larousse. Voilà, et on le sait aujourd'hui, on peut même faire des desserts avec de l'avocat. Je sais que vous êtes venu pour ça aussi, Grégory Cohen. Les besos. Plein de besos pour vous remercier d'avoir été avec nous en ce samedi matin. Grégory, plein de bonnes choses pour vous et pour vos proches. Et vous qui nous écoutez, si vous n'avez pas tout retenu de cette émission, rendez-vous sur l'appli RTL pour le replay et sur nos réseaux sociaux pour les recettes. Moi, je vous donne rendez-vous lundi dès 14h30 sur RTL pour En effet pour s'entendre, vous savez, votre magazine du partage et de la réflexion. Et à la semaine prochaine de 9h15 à 10h pour un nouveau numéro de Nous voilà bien. Prenez bien soin de vous, passez le meilleur week-end possible à l'écoute d'RTL bien sûr. Je vous embrasse.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.